Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le général Abdoulaye Maïga est le nouveau chef du gouvernement. Il remplace Choguel Kokala Maïga limogé mercredi nuit. Une décision qui intervient après des manifestations tenues un peu partout dans le pays suite à des propos tenus par Choguel Kokala Maïga lors d'un meeting. Le nouveau gouvernement a été déjà formé dans la foulée. Et premier constat, les portefeuilles clés restent inchangé. Ce limogeage de l'ancien chef du gouvernement était-il prévisible? Comment se dessine l'après-Choguel? Les priorités du nouveau, quelles seront donc les priorités de ce nouveau gouvernement? On en parle avec trois invités. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur et spécialiste des relations internationales. Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques. Je suis Mariam Maïga, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Choguel est parti. Abdoulaye Maïga vient d'être confirmé Premier ministre. Et déjà, première question, tour de table, que pensez-vous de cette décision tombée en moins de 24 heures? Je commencerai par Ngolo Diarra.
Oui, évidemment, c'était prévisible. Tout cela traduit et montre que la complexité de la vie politique du Mali. Et pour rappel, il faut se rappeler que il y a eu des civils qui sont sortis demandant le départ du président Keïta en entraînant la fin de l'ordre constitutionnel existant. Et du coup, pour pallier tout ça, il y a une branche de l'armée qui est rentrée dans la danse pour marquer évidemment leur présence dans la gestion de la chose en public. Alors dès lors, il fallait travailler pour cohabiter ensemble. C'était difficile au départ, et à ce que la branche militaire a décidé à ce que la branche civile rentre dans la danse. Ça fait l'intronisation de M. Maïga, qui vient de juste être démis de sa fonction. Donc ça traduit la complexité de la chose, alors que tout doit être fait pour stabiliser ça, parce que la crise politique peut engendrer d'autres crises au moment où le pays est dans des situations difficiles, tendues, contre les séparatistes au nord, et difficile cohabitation entre les musulmans, entre guillemets, autour au sujet qu'est-ce qu'il faut, qui pour succéder à la tête du Haut Conseil islamique. Alors donc les réalités sont tendues, si fait que, en tout cas, le nouveau Premier ministre a beaucoup de chemin à faire.
Les réalités sont tendues, mais était-ce le moment d'aller vers ce limogeage-là?
Et évidemment, parce qu'il faudrait qu'il y ait la stabilité au sein de la politique, au sein de la vie politique de la nation. Sinon, il ne devrait pas y avoir des discords au sein de l'exécutif. Des discords au sein de l'exécutif vraiment montrent comment le pays vit dans des circonstances difficiles. Et on sait bien que les crises politiques, leurs conséquences sont énormes sur le plan de la sécurité et sur le plan économique. Alors, donc, il faut se profiter de tout ça pour mettre de l'ordre dans les choses.
Souleymane Keïta, est-ce que Choguel n'a pas choisi son départ? Parce que ça intervient après des propos tenus par Choguel, et surtout que, également, dans l'opinion nationale, on entendait depuis fort longtemps la démission de Choguel, mais ce n'est jamais arrivé.
Merci, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il a choisi son moment? Peut-être il faut commencer par le début, comment Choguel est arrivé. À des problèmes structurels, il ne faut pas apporter de solutions ou de réflexions conjoncturelles. Ça ne marche pas, en fait. Le problème a commencé par la lecture de la collaboration entre le CNSP de l'époque et le M5. Le M5 s'est présenté comme partenaire. Va entretenir un partenariat civilo-militaire. C'est cela une mauvaise lecture, en fait. Ça, c'est le point de départ. Parce que le pouvoir ne se voit pas en termes de partenariat. Il y a celui qui détient l'effectivité du pouvoir et qui vous donne une parcelle du pouvoir. C'est comme cela que ça se passe. Mais dès le départ, le M5 est parti sur la base des partenariats. Ça veut dire que la révolution qui vous a amené le pouvoir, c'est notre bébé. Donc, nous sommes aussi, nous sommes égaux dans ce pouvoir. Ça, c'était la lecture et c'était une mauvaise lecture. C'est ce qui permet de comprendre que M5, comme Choguel était le Premier ministre et le patron du M5, s'était plaint du fait que le Premier ministre n'avait pas les prérogatives du Premier ministre. Effectivement, il n'en a jamais eu. Je l'ai dit ici sur ce plateau qu'il n'a jamais eu le pouvoir de sa politique. Jamais. C'est un Premier ministre. Il a encaissé les coups qu'il a encaissés. Il en a donné certainement. Et le ras-le-bol final, parce qu'il y a eu plusieurs séquences, le ras-le-bol final s'est exprimé avec la sortie du 16 novembre dernier. Et ça, on savait très bien qu'après cette sortie, la cohabitation allait être impossible. Et tout le monde, tous les observateurs avisés attendaient le mercredi. C'était le mercredi de toutes les décisions. Parce qu'après de tels propos, on ne peut plus s'asseoir sur le même conseil des ministres, sur la même table, se regarder et faire comme si de rien n'était. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était prévisible, mais le moment indiqué, personne ne pouvait prévoir quand est-ce que cela arrivait. Il ne faut pas oublier un fait important, c'est 2025 qui arrive. C'est l'année électorale. Choguel Maïga est un homme politique.
Est-ce sûr qu'en 2025, ça sera l'année électorale?
En tout cas, c'est budgétisé.
2025. Et ce n'est pas une première budgétisation, ça avait été fait avant.
Ce n'est pas une première. Alors, 2025, c'est une année électorale. Et Choguel Maïga, c'est un homme politique. Un homme politique, il cherche le pouvoir, il veut gérer le pouvoir. C'est dans l'ordre normal de la politique. Quand il parle de clarification, moi, c'est en cela que je vois la chose. Parlons de l'après-transition. On ne peut pas parler de l'après-transition si chaque acteur de la transition ne dit pas ce qu'il compte faire de la sortie de la transition et comment il se voit dans l'après-transition. Probablement, on peut imaginer, sauf catastrophe des dernières minutes, il est très certainement candidat. S'il est candidat et que du côté du pouvoir, du côté des militaires, il y a extrêmement un candidat, je vais dire, naturel. Donc, deux candidats ne peuvent pas être dans la même institution. Ce n'est pas possible. Donc, il faut clarifier les positions, qu'on se démarque tout de suite.
D'accord. Clarifier les positions, comme aimait le dire le désormais ex-chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga. Mais on tenterait de dire également que c'est plutôt une confirmation et non une nomination pour Abdoulaye Maïga.
Abdoulaye Maïga était Premier ministre bis. C'était un vice-premier ministre, même si le poste n'existe pas dans notre attelage institutionnel. C'était un vice-premier ministre. Il a remplacé le Premier ministre quand il était malade. Donc il est chef de l'administration. Il est devenu chef de l'administration territoriale, pardon. Il est devenu chef de l'administration générale intérimaire pendant au moins 4 mois. Quand Choguel est revenu, il est confirmé ministre d'État. On sait qu'il est le remplaçant naturel. Et ce que je disais dans le propos précédent, il faut se rendre à l'évidence, le régime, il est militaire. Ça, c'est depuis le départ. C'est pourquoi j'ai parlé du problème de lecture entre le CNSP de l'époque et le M5. Le régime, il est militaire. Et c'est la confirmation que nous avons eue. Qui d'autre que Abdoulaye Maïga aurait pu incarner ce poste parmi le groupe de colonels qui a pris le pouvoir? Qui d'autre? C'est Abdoulaye Maïga, l'héritier du poste de façon naturelle.
Et c'est vrai que Abdoulaye Maïga ne faisait pas partie des militaires lors du coup d'État d'août 2020, mais aujourd'hui il est un pilier essentiel. Hamadou Touré, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que ce casting Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement, c'était finalement prévisible?
Avant de prendre cette question, il est important de revenir sur le départ de Choguel. À la suite d'un meeting organisé au CICB, le malaise était assez profond et palpable. À cela s'ajoutaient les manifestations dans les régions. Et la rupture était prévisible. C'était une rupture consommée, mais qu'il fallait acter. Et le président de la transition a acté cette rupture le mercredi soir. Et avec la nomination de Abdoulaye Maïga, ce n'est que la continuité. Abdoulaye Maïga incarne déjà la continuité de l'action gouvernementale. Pour plusieurs raisons, il était déjà préparé. selon les observateurs, a occupé ce poste, notamment en tant que remplaçant du premier ministre lorsqu'il était malade, en gérant l'administration générale et en représentant le président de la transition dans toutes les rencontres nationales aussi qu'internationales. Donc il pourrait incarner une continuité de ce fait. Donc sur la gestion ou les objectifs que le nouveau Premier ministre pourrait s'atteler, à mon niveau, il pourrait, s'il consulte, il forme son gouvernement, il pourrait avoir un gouvernement de mission où, en plus de l'expérience qu'il a déjà, notamment en renforçant l'EJ, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille aux élections. Et aussi, il faudrait que le Premier ministre ne soit plus un Premier ministre d'un Malien, mais de l'ensemble des Maliens, qu'on unisse les Maliens autour de l'essentiel. Parce qu'on a constaté le dimanche réellement qu'il y a une division des Maliens, qu'on se retrouve autour de l'essentiel, qu'on s'unisse, et qu'on n'a que le Mali en termes d'héritage, en termes de biens communs. Le Premier ministre Ablaye Maiga est renforcé parce que déjà, il a l'administration, comme l'a dit le collègue. En plus, il va être le patron de l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Et à ce titre, il pourrait aussi incarner une manière de renforcer les acquis, notamment les acquis des réformes en cours, les acquis du Mali modèle AS. Et surtout, il est bon de rappeler que notre intégration au sein de la CEDEAO prendra fin en 2025. C'est-à-dire que les défis sont là et nous osons espérer qu'il pourrait apporter un plus pour redonner un nouveau coup d'élan à l'action gouvernementale.
Alors, vous gardez la parole, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, moins de 3 heures de temps, la formation du nouveau gouvernement a été rendue publique. Quelle analyse faites-vous déjà de cette formation gouvernementale?
Bon, c'est pour dire qu'avec le général Corps d'armée, c'est des militaires ne perdent pas de temps pour des questions aussi essentielles. Et si vous avez constaté, il y a la semaine dernière ou la semaine en cours, il y avait presque léthargie de l'action gouvernementale. Les choses ne bougeaient pas. Donc il fallait décanter la situation en nommant le Premier ministre et en formant le gouvernement. Et sur ce gouvernement, ce qui est important de retenir, c'est que le désormais Premier ministre Ablaye Maiga, le général de division, soit renforcé. C'est-à-dire il est Premier ministre, il est ministre de l'administration territoriale. Donc ce qui pourrait aussi confirmer que nous avons un gouvernement purement militaire qui va se donner comme tâche principale de prendre en considération primordialement les questions sécuritaires. Et Ablaye Maiga, en tant que premier ministre de l'administration territoriale, est en concertation avec l'EJ et on pourrait s'attendre aussi à des élections prochaines. Donc, concernant les autres ministres régaliens, vous l'avez dit, les postes clés restent inchangés. Il y a eu notamment des changements. Et avec Madame la ministre qui est sur laquelle il y a tant de commentaires a été changé, notamment Madame la ministre de l'énergie. Donc nous avons vu qu'il y a un changement à ce point. Donc c'est pour dire que la nomination du gouvernement en moins de 3 heures et en moins de 12 heures du Premier ministre montre que le président Assimi Goïta n'a pas perdu assez de temps pour redonner un nouveau coup de pédale à l'action gouvernementale.
Docteur Amadou, est-ce que Ablaye Maiga sort simplement renforcé? Parce qu'on a vu que dans ce nouveau gouvernement, il combine 2 postes, alors que dans l'ancien gouvernement, il était ministre d'État, ministre de la fonction publique et également ministre de l'administration, porte-parole du gouvernement.
Oui,
il avait plusieurs postes.
Il était ministre d'État, vice-premier ministre, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Donc maintenant, il est confirmé premier ministre. Il est confirmé Premier ministre et il est déjà ministre de l'administration territoriale. Cela veut dire quoi? Il a le double avantage d'être Premier ministre parce qu'il était vice-premier ministre. Maintenant, il n'y a pas Choguel, il n'y a pas d'autre paravent. Donc c'est lui-même directement qui est dans l'action gouvernementale. Parce que qu'est-ce qu'on avait constaté? Depuis longtemps, il a été dit et constaté que Ablaye Maiga n'était que le représentant naturel du président Assimi Goïta, contrairement à Choguel, qui se plaindrait qu'il est premier ministre, mais n'était pas dans ses fonctions. Donc, Ablaye Maiga, premier ministre, et Ablaye Maiga, ministre de la situation territoriale, pour dire que Assimi Goïta a clarifié sa position par rapport à ses commentaires de ces derniers temps. Et Ablaye Maiga aussi, en plus d'être ministre de la situation territoriale, connaît déjà les défis, notamment les défis et les difficultés qu'on a. Et les Maliens se plaignent notamment de la carte d'identité nationale, des cartes biométriques. Et aussi Ablaye Maiga, en tant que Premier ministre, prend officiellement cette fonction pour confirmer qu'il n'est plus dans le rôle d'intérimaire. Donc, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire sur Abdoulaye Maiga? Le règne n'est plus, et il n'est plus, dans ces deux jours, dans les jours à venir, mm-hmm. Abdoulaye Maiga ne serait plus toléré dans ses tâches. C'est-à-dire qu'il serait regardé sur la mission en tant qu'un vrai premier ministre qui dispose des prérogatives. Donc, sur ce point, nous pouvons confirmer que la continuité gouvernementale a été la priorité du président Assimi Goïta. C'est pour ça que nous avons vu que les choses étaient allées trop vite.
Alors, je me posais la même question à Dr Ngolo Diarra. Quel regard faites-vous de cette formation gouvernementale?
Évidemment, c'est de travailler et soulever, trouver des solutions à des défis. En tout cas, les défis sont énormes. Monsieur Maiga est... je l'ai connu, je connais sa perception des choses. C'est quelqu'un qui est engagé, il est engagé pour la cause du pays. Et il évite les problèmes, il cherche des solutions. C'est ce qui caractérise l'homme. Mais quand nous prenons la situation du pays, ce que tout part, en tout cas le cordon ombilical, c'est des crises politiques. Et ça augmente. Bon. Maintenant, le fait que la branche civile du changement anticonstitutionnel du pouvoir est écartée et que c'est un officier, même s'il ne faisait pas partie du cercle des officiers qui ont amené ce changement, alors vit, en tout cas, sa façon d'être, il peut concilier les politiciens et évidemment la branche militaire de ce changement. Alors, maintenant, il s'agit de travailler parce que généralement, dans les rencontres, quand il fait appel aux politiciens, les politiciens viennent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est écouté. C'est tout ça, ses avantages. Alors, dans cette situation politique, doit trouver des solutions rapides. Alors, avec la situation difficile, il ne fallait pas perdre de temps pour dire on va faire la consultation, on va voir ceci, on va voir cela. Bon. Avec des crises politiques où d'autres se retrouvent en prison, d'autres sont en prison, il y a des difficultés. Donc s'il fallait prendre du temps pour dire qu'on va consulter l'autre et l'autre, ça allait entraîner l'annissement. Pour éviter l'annissement, j'ai compris la décision du général d'armée, le président Goïta, dans ce sens. Alors il fallait agir vite et pour éviter qu'il n'y ait pas, évidemment, un trou vide. Alors, ce qu'on peut dire, c'est de travailler, parce que la légitimité de ses pouvoirs trouve ses origines dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre contre le néocolonialisme, la guerre contre l'impérialisme. C'est à partir de là qu'il s'agit, et il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau avec le reste du monde. En tout cas, tout se passe bien de l'autre côté de l'hémisphère nord, avec Moscou, avec Ankara et avec d'autres. Bon, à l'interne aussi, en Afrique, il y a des difficultés avec l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, et des difficultés avec l'organisation régionale de l'Union africaine. Alors donc, il faut tenir de tout cela et travailler pour faire en sorte qu'on assainisse la démocratie malienne. Alors tout cela traduit que ce pays aujourd'hui a besoin de la démocratie, tout comme le corps humain a besoin de l'oxygène. Alors, et c'est ce que le Premier ministre disait quand même, cette question d'élection, ça doit se faire. Et alors que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, alors ça serait son chemin de bataille.
Est-ce que c'est parce que cette question électorale doit être son chemin de bataille qu'aujourd'hui il combine... Il continue à garder son portefeuille au sein de l'administration territoriale.
Oui, ça c'est normal parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Depuis son arrivée, il a fait beaucoup de choses. Ça, il faut quand même dire, avec la régionalisation, avec la nomination des préfets, des sous-préfets. En réalité, en tout cas, quelque chose bouge dans la gestion territoriale. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plutôt que de parler trop, en réalité. C'est quelqu'un qui travaille. Bon, de là, il faut travailler à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'union sacrée autour de l'essentiel. Alors, c'est l'homme qui peut faire ça. Alors, c'est l'homme qui est écouté. Alors, c'est dans ce sens qu'on ne doit pas perdre le temps. Alors, quelque chose s'est passé après le discours. Quand la foule est sortie pour... critiquer le Premier ministre et demander sa démission. Et si toutefois on avait laissé cette population se prononcer dans les urnes, ça allait mettre fin à tous ces problèmes politiques. Alors, parce que cette population est sortie, dégage le président, on veut le président Guetta, on veut ceci, on veut cela, on veut les autorités. Mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment rentrer dans un carcan scientifique, politique, voilà, pour sortir dans tout ça? Ce n'est pas une première fois en Afrique. C'était presque devenir une jurisprudence. Quand il y a des tensions entre le pouvoir et des populations, vous verrez que l'armée rentre dans la danse pour siffler la fin de la récréation. Et l'armée était considérée à ce niveau comme le régulateur thermique dans le contrôle des géographes. Alors s'il y a des choses qui sont là, et donc il faut travailler à ce qui est ce qu'on appelle l'accalmie et se retirer. Alors, mais si elle dure, l'armée dure dans cette position de politique, en cas de problème entre cette armée et la population, le dernier rempart, c'est qui ? Sachant qu'au Mali, les derniers remparts, c'était les hommes religieux. Là aussi, il y a des divisions. Alors, donc, il doit beaucoup travailler, capitaliser, étudier la sociologie politique malienne pour éviter le chaos. Alors, parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'on peut enseigner ici.
Docteur Keïtan, je me tourne vers vous maintenant. Un gouvernement formé en toute rapidité, quelle est votre appréhension également sur cette formation gouvernementale?
Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements, en fait. C'est ce qui explique aussi la rapidité. Choguel est évincé, avec lui, les quelques lieutenants qui lui restaient, parmi lesquels Ikassa. Donc, c'est un changement minimum. C'est un mini remaniement ministériel qui s'est passé. Les postes clés, les postes régaliens sont restés. La défense, l'administration territoriale. Mais le poste de l'administration territoriale, c'est un poste clé. C'est pourquoi je parlais dans la précédente intervention de 2025 comme une année charnière, une année électorale. C'est l'administration territoriale qui organise les élections. Au Mali, on peut mettre l'aige, on peut mettre ce que l'on veut, mais l'élection, c'est l'affaire de l'administration territoriale. En dernière instance, c'est l'institution d'organisation de l'élection. Et ce n'est pas pour rien si Abdoulaye Maïga, devenu Premier ministre, garde ce poste. C'est un indicateur. Et c'est un indicateur important. On sait très bien, et Bongo l'avait dit, Bongo Père, Omar Bongo, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Qui organise les élections a de très fortes chances de les gagner. Ça va être les prochains débats vont être concentrés sur cela.
Et ça veut dire que derrière nos gouvernants actuels, il y a un candidat derrière qui se cache derrière.
Il se cache même plus. Les masques sont tombés depuis. Et c'est le fait que les masques soient tombés qui a amené ce clash avec justement Choguel.
Et qui est ce visage?
Mais, sans langue de bois. Assimi Goïta sera candidat. Ça, je donne ma langue au chat, il sera candidat. Autrement, on n'aurait pas eu tout ce bisbille. C'est clair. Maintenant, la rapidité, je l'ai expliqué, c'est parce qu'il fallait juste évincer quelques 3-4 personnes, pas plus. Je ne pense pas qu'il y ait eu plus de 5 personnes de parti et d'arrivée. Et ceux qui sont arrivés, on les connaît plus ou moins. Au Mali, il y a très peu de personnes qu'on ne connaisse pas, on se connaisse tous. Donc là, ça se comprend. Maintenant, en termes de défis.
J'allais arriver. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui les priorités de ce gouvernement?
Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Absolument tout. Il n'y a aucun secteur qui ne soit pas prioritaire. La sécurité. Depuis l'arrivée depuis le coup d'État, dit que la transition sera d'abord jugée sur la question sécuritaire. Elle est fondamentale. Les autres questions viennent parce que la crise énergétique, de mémoire de Malien, je ne pense pas qu'on ait connu une crise aussi aiguë et sur la durée. C'est une priorité également, il faut répondre, parce que sous l'appellation crise énergétique, ce n'est pas seulement le luxe. Il y a des entreprises qui meurent. Il y a des emplois qui se perdent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il y a tout cela, il faut mettre bout à bout. L'éducation, c'est un problème. Vous voyez, on a reporté la rentrée scolaire et universitaire. Un mois. Officiellement, c'est pour des cas de sinistrés, pour des cas d'inondation. Officieusement, les syndicats avaient déjà bandé les muscles. La rentrée allait être très tendue. Donc, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Le collègue a parlé du gouvernement de mission. Je pense que tous les gouvernements sont des missions. Sont des missions, sont des gouvernements d'action. Maintenant, il faut montrer des réalisations aux Maliens. Dire voilà où nous étions. Voici ce que nous avons fait. Et voici où nous sommes arrivés. Jusque-là, au Mali, officiellement, il n'y a jamais eu de bilan de la transition. Nous sommes quand même à 4 ans. On n'a jamais fait le bilan de la transition. À un moment donné, il va falloir montrer l'ardoise aux Maliens, dire de notre arrivée à aujourd'hui, voici ce que nous avons fait. Docteur Diarra disait tout de suite que les choses bougent. Il y a très peu de choses qui bougent, en réalité. Il y a très peu.
Vous estimez que les choses stagnent plutôt ?
En politique, il n'y a pas de stagnation. Vous reculez ou vous avancez. Et nous n'avançons pas. Ça, c'est une... C'est palpable, en fait. On peut engager ce débat-là, point par point, structure par structure,
secteur par secteur. Quels sont les indices qui peuvent nous montrer que, comme vous l'avez dit, en politique, on avance ou on recule, que nous allons en reculant ?
J'ai parlé tout de suite des problèmes énergétiques. Il y a une semaine, c'est toute la population du centre qui était en manifestation. L'une des rares fois, et chaque fois qu'il y a manifestation, c'est cette partie qui se plaint parce que des villages sont détruits, les populations sont obligées de quitter leur localité d'origine pour faute d'insécurité. Et il faut écouter les messages qu'ils portent. C'est des messages de désespoir. Au début, c'était des messages d'appel à l'aide. À un moment, quand les citoyens disent « Mais est-ce que nous sommes Maliens ?» Ça interpelle. Sur le plan de l'éducation, nous sommes entre universitaires ici. Mm-hmm. Nous n'avons pas... Il n'y a aucune université au Mali. Aucune université au Mali qui soit en train de régler les problèmes de l'année en cours. Moi, de là où je suis, je viens de finir des examens de 2021-22.
Dans quelle faculté ?
Faculté des sciences humaines. 2021-22. Ça veut dire qu'un étudiant qui entre en cycle de licence pour 3 ans, au minimum, il fait 5 ans pour un cycle de 3 ans. Ça, c'est dans toutes les universités. Les bacheliers de l'année dernière viennent à peine de commencer, par endroit, à peine. Donc, on peut prendre secteur par secteur pour qu'on me montre, moi, une évolution, un bond en avant, une plus-value.
Alors, docteur Amadou, est-ce que pour vous également, tout est priorité aujourd'hui ?
Bon, évidemment, parce que si on se rappelle, le point de départ même du BK, c'était la rupture. Il faudrait un Mali courant. Mali courant synonyme de rupture avec l'impunité. Où tout ce qui a été décrié serait des mauvais souvenirs. Un Mali prospère, uni, stabilisé et sécurisé. Donc, sur ce gouvernement, j'avais dit au départ que ce gouvernement pourrait être un gouvernement de mission. Le collègue m'a dit que c'est un gouvernement. Tous les gouvernements sont des gouvernements de mission, tout à fait. Et merci pour cette observation. Au-delà de ce que je pourrais ajouter, c'est que ce gouvernement, nous l'attendons sur sa déclaration de politique générale. Comme il est nommé, c'est est-ce que Abdoulaye Maiga va incarner la continuité du gouvernement de Choguel ou il va s'incarner par une rupture en dégageant le projet de société. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le Premier ministre n'est que le représentant du président de la transition avec notre nouvelle architecture gouvernementale. Est-ce qu'ils vont décliner le projet de société sur un Mali 2024-2025-2026 qui va stipuler clairement les grandes orientations politiques et les ambitions. Mais moi, ce que je leur proposerai, comme je l'avais dit au départ, c'est de renforcer la dynamique enclenchée par l'EJ, les consultations en cours, et qu'on aille rapidement aux élections. Si vous voyez qu'il y a trop de tensions et trop d'incompréhensions autour du pouvoir, parce que les élections tardent, et il est important qu'on organise les élections et qu'on aille de l'avant. Donc, sur le projet de société, qu'est-ce qui fait défaut ? Jusqu'à présent, la vision n'était pas aussi claire. Il n'y avait pas une vision clairement définie. qui va nous stipuler pour dire nous sommes là à court terme, à moyen terme, pour dire que nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et en ce moment, le peuple malien aura une idée.
Mais est-ce que ce flou n'est pas fait sciemment également?
Bon, comme nous sommes en politique, je parle sous le couvert de la politique. En politique, il y a ce qu'on fait croire et ce qu'on cache pour soi-même, c'est-à-dire que les intérêts. Et la politique n'a d'autre but que de faire une action concrète à un moment précis pour en tirer des bénéfices. Bénéfices pour qui? Pour le peuple et pour soi. Et en politique, tous ceux qui font de la politique pour eux-mêmes. Ça, c'est d'office. Et on prend le peuple comme deuxième point de vue. Donc, c'est pour dire que, sciemment fait ou pas, mais ce qui nous manquait, c'était une vision claire de la transition. Maintenant, avec la nomination de ce gouvernement, avec le ministre Abdoulaye Maiga qui sera renforcé, nous attendons que très bientôt, devant le CNT, qu'il nous déclare notre politique publique, c'est-à-dire faire la déclaration de la DPG, avec un projet de société viable et qu'on pourrait discuter.
Alors, c'est vrai que cette déclaration n'est pas encore faite. Nous allons nous mettre à philosopher. Qu'est-ce qui peut être le point saillant dans sa déclaration?
Bon, dans sa déclaration, moi, je me prononcerai plutôt sur l'organisation des élections. Parce que comme on l'a vu, depuis son arrivée, il est au ministère de l'administration territoriale. Si le président l'a gardé à ce poste, c'est pour une continuité. Notamment les réformes sont en cours au niveau de l'administration, la régionalisation, avec la suppression des cercles. Nous avons aussi la révision de l'élection électorale qui est annuelle. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que le ministre lui-même, Abdoulaye Maiga, avant d'être Premier ministre, a effectué un déplacement avec le gouvernement et le président de l'AEJ sur le terrain pour essayer de constater visu l'évolution de cette révision. Donc le point saillant pour ce gouvernement, ça sert non seulement l'organisation des élections, parce que tout le problème du meeting de l'ancien Premier ministre Choguel tournait autour de trois points, notamment le report, l'âge et le calendrier électoral. Cela veut dire que l'élection au Mali est devenue, ce n'est plus un secret de polichinelle, mais c'est une réalité. Donc si vous voyez que tout tourne autour de Abdoulaye Maiga, sa confirmation et le fait de le maintenir au ministère de l'administration territoriale prouve à suffisance que le président Assimi serait dans la dynamique de l'organisation des élections. Maintenant, avant que le collègue l'a dit, Assimi va être candidat, mais avant qu'il ne soit candidat, il y a les prérogatives, notamment la révision de la charte qu'il faudrait, et aussi susciter sa candidature. Si le point susciter sa candidature,
et ce point, que sur ce point, susciter sa candidature, c'est déjà fait. Maintenant,
on attend la révision de la charte ou sa déclaration prochaine pour dire clairement qu'il va être candidat.
Docteur Ngolo Diarra, je me tourne vers vous. Monsieur Touré disait tout à l'heure que le point saillant qui, dans sa déclaration de politique générale du gouvernement, lui s'attend plutôt à voir la question électorale. Selon vous, dans cette politique générale du gouvernement, à quoi peut-on s'attendre?
Ok, la gestion d'un État, ce n'est pas du tout facile. La chose publique, gérer, c'est difficile. Alors, quand il y a eu ces changements anticonstitutionnels, les civils... La branche civile, M5, avait ses observations et puis voilà, ses projets. Alors, quand le cercle des officiers est rentré dans la danse, c'était quoi? Nous sommes des militaires, on est au front, on n'a pas des armes. Alors, donc, il faut voilà, chercher des armes pour nos éléments. Alors, quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Et quand je dis que les choses bougent, ce n'est pas dire comme ça. Nous analysons, nous sommes des observateurs, on n'appartient pas à un camp. On est neutre, nous sommes des chercheurs, en tout cas on produit des conseils. Alors, on avait perdu 800 000 km² annexés par des séparatistes, présupposés état de l'Azawad. Alors, quand ils sont venus, en tout cas, ils ont tenté de travailler dans ce sens. Alors, même le fait que toutes les installations d'arsenal juridique international qui étaient là, qui jouaient de complaisance avec les groupes armés séparatistes, alors le fait que tout cela est parti, qu'il y ait des luminosités par rapport à ça, le Mali est indivisible. Nous avons des hommes qui sont en position avancée à Ber et à la frontière en Algérie, qui sont en train de tout faire pour défendre. Une autre, quand même, c'est d'occuper le territoire. Une autre aussi, c'est de maintenir. Alors, la question question du centre est toujours évoquée pour montrer que la transition a échoué. C'est une réalité qui est là, avec des tensions inter- et intracommunautaires. Il doit beaucoup travailler sur ça. Et alors, donc, les experts, nos collègues experts, sont amenés à travailler sur une charte de paix pour donner au président et voir qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit inter- et intracommunautaire qui sévit au centre. Ça, c'est des avancées. Et l'actuel Premier ministre, quand il est au niveau de l'administration, il a fait beaucoup d'évolutions par rapport à la régionalisation, par rapport à l'installation des choses. Alors donc, s'il devrait faire une déclaration d'une politique générale devant, bon, de façon, est-ce que c'est l'appel encore ? Est-ce qu'il ne faut pas aller vite ? Et voilà, donc, parce que l'essentiel, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que cette crise politique reste derrière nous. Alors, d'autres ont été faits. On a eu une constitution de 22 juillet 2023, c'est une réalité, et la prise en compte de la branche militaire du changement anticonstitutionnel, ça a été pris en compte par des articles qui ont été aménagés.
La finalité des travaux du dialogue intermalien.
Tout à fait. Voilà. Donc, quand même, il faut dire qu'il y a, en tout cas, quelque chose bouge, mais cela n'est pas veut dire que tout est rose. Ah, non, il y a des difficultés. Il y a vraiment des difficultés, et on doit travailler à prodiguer des conseils dans ce sens là pour éviter les chaos. Parce que politiquement, seulement, s'il échoue politiquement, les restes, tout ça là, s'envoler. Donc c'est cette politique-là qu'il faut vraiment assainir. Bon, la culture démocratique, la préparation du peuple à l'exercice démocratique, c'est ce qu'il faut. Alors donc, le Sénégal en est un exemple. Maintenant, le Mali, il faut vraiment faire vraiment ces architectures-là. Et c'est ce qui est, en cours. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser le flou, c'est ce qu'on peut dire au cercle des officiers. Donc le flou, ce n'est pas du tout bon dans la gestion de la chose. Alors le voisin Burkinabé, il a été très clair, il a dit à ses éléments, voilà, c'est comme ça, moi je suis président. Alors donc ils ont compris, ils se sont mis d'accord par rapport à ça. Donc, mais si on laisse le flou ici, tantôt on montre qu'on veut aller en élection, tantôt ça se retarde, tantôt ça se rétrograde. Alors c'est ce flou qu'il faut enlever et préparer le peuple vraiment à l'exercice démocratique. Ben, c'est comme ça. On les voit avec des révolutions comme ça et que les officiers rentrent dans la danse au nom de la guerre contre l'impérialisme, le néocolonialisme. Et tantôt, tous ces officiers auront évidemment leur droit de veto dans la gestion de la chose. C'est ce qui rend les choses très, très compliquées. C'est pourquoi, et pour évidemment faciliter la tâche pour eux, c'est de faire en sorte de laisser les Maliens de s'exprimer librement dans les urnes et faire leur vie l'instauration des libertés démocratiques. Bon, Gamal Abdel Nasser, à leur temps, faisait ce qu'on appelle son veto pour dire que la révolution n'est pas encore avancée. On ne doit pas aller dans les exercices démocratiques. Si on le fait, toute cette révolution, ça va tomber. Donc, Nasser est resté dans ça. Il y a eu trop de bruit entre lui et le général Nguib. C'est ce qu'il faut vraiment craindre. Alors, cette armée, si la manière dont les militaires se sont donné la main, si les politiciens s'étaient donné la main aussi comme ça, ça allait aller.
Alors, vous empiétez sur ma dernière question. Oui, oui. Je sais que les universitaires, vous avez beaucoup parlé, mais il nous reste un peu plus de six petites minutes pour clore cette émission. Une dernière question tour de table. Avec le départ de Choguel Kokala Maïga, on peut dire que les gouvernants actuels se tournent dos également au M5 RFP. Actuellement, est-ce qu'on peut dire comment se dessine l'après-Choguel sur l'échiquier politique? Je donnerai la parole à Dr Keïta.
Merci. Malheureusement, on n'a pas le temps. Nous assistons à la redistribution des cartes politiques. Il y a de nouveaux acteurs politiques qui sont dans la danse et avec lesquels il va falloir composer, forcément. Donc c'est une restructuration de l'espace politique. Il y a des politiques qui ont disparu. Certains sont décédés, il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont perdu leur force. Donc, Choguel, moi je le vois, l'ancien Premier ministre, comme le nouveau chef de file de l'opposition qu'il va incarner. Autrement, tout ce qu'il a dénoncé, tout ce qu'il a fait, n'aurait pas eu de sens. Il faut qu'il incarne cela pour qu'il y ait une activité politique.
Mais est-ce qu'il y a l'étoffe et puis le soutien nécessaire pour ce rôle-là aujourd'hui?
Je crois qu'aujourd'hui, il doit tout faire pour les avoir et l'étoffe et le soutien. L'étoffe, il l'a déjà. Même si le M5 n'est pas un parti politique, parce que ça, c'est l'autre question qu'il va falloir régler. Le M5 n'est pas un parti politique. Alors, les partis politiques doivent être reconstitués peut-être autour du M5. Ça, c'est son travail qu'il aura à faire. Ce n'est pas le mien. Maintenant, de l'autre côté, il y a, moi, je n'ai aucun doute, les militaires ont leur candidat et il s'appelle Assimi Goïta. Au moment venu, je dis les masques, on ne porte plus de masques. Docteur Diarra, vous disiez si les politiques pouvaient se donner la main, ce n'est pas dans leur nature de se donner la main. La politique, c'est le lieu des contradictions, c'est le lieu de l'expression des idées, c'est le lieu de ce combat très galant, une lutte très galante, sans les armes. C'est la lutte des idées. On ne peut pas se donner les mains quand on est en politique. Je crois que c'était la grande erreur, malheureusement, du régime ATT autour du consensus. En politique, il n'y a pas de consensus.
Alors, en politique, il vient de le dire, il n'y a pas de consensus. Mais il vient de le dire, Choguel va incarner ce rôle de chef de file de l'opposition. Mais déjà, est-ce possible, en sachant que le M5-RFP, qui n'est pas une partie politique, est super divisé?
Oui, évidemment, c'est super divisé parce que, en réalité, quand je disais se donner la main, parce que quand ils sont sortis, alors c'était de dégager le président Keïta. Alors, j'ai reçu la jeunesse du M5, une partie de la jeunesse du M5 à l'époque où j'analysais la situation. On disait, bon, docteur, venez vers nous. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il veut pas qu'il soit mauvais. Vous souhaitez l'ordre constitutionnel de l'existant? Un politicien qui sort, qui était incapable de faire ses luttes, qui sort, qui se donne la main pour sauter l'ordre constitutionnel existant. Et c'est eux qui sont en train de crier aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez comment ça se fait? Il fallait dire, bon, le président Keïta, il est là, il y a des difficultés. En tout cas, mais il faut trouver des solutions pour chercher des armes et donner ces armes à ces militaires. Mais garder l'ordre constitutionnel. Une fois qu'on est pris dedans, on ne peut pas gérer un pays de façon anticonstitutionnelle.
Mais ils sont jetés maintenant, l'après Choguel.
Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. L'après Choguel, c'est de dire au cercle des officiers, c'est de travailler pour éviter des crises politiques. Parce que ces crises politiques, ça n'honore pas. Ça amène ce qu'on appelle des chaos. Alors, donc, s'il arrive à décomplexer les choses, alors qu'il y ait un candidat militaire ou pas, je ne sais pas, je ne rentre pas dans ces temps qui est candidat, qui n'est pas candidat, mais ce qu'il faut installer un mode de gestion des affaires politiques. C'est-à-dire qu'il faut un régime, il faut caler un régime politique où les peuples se retrouvent. Il faut un contrat social. Donc, si cela n'y est pas, et si on va comme ça, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Alors, ça a été enseigné par Rousseau. Il faut ce contrat-là. Mais comme ça, ça serait très, très difficile d'avancer. Alors, donc, il faut éviter d'autres crises politiques à l'interne.
La dernière intervention sera pour vous, docteur Touré.
Oui.
L'après Choguel, vous le voyez comment?
Bon, l'après Choguel, ce n'est qu'une continuité, parce que pour dire que le choguelisme, c'est un esprit, parce que Choguel a toujours défendu l'esprit du M5, qui était l'avant-garde de la lutte. Et quand on dit que Choguel pourrait être chef de lutte de l'opposition, moi, je m'inscrirais en faux, parce que Choguel l'a dit, il est là en tant que soutien de la transition, et qu'il prend cette transition comme son bébé. On ne peut pas être contre son bébé. Donc Choguel pourrait être un atout pour les autorités de la transition. À ne pas confondre Choguel qui n'est plus dans le gouvernement.
Un atout avec tout ce qui vient de se passer.
Oui, un atout. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le gouvernement. À l'extérieur du gouvernement, il pourrait conseiller et aider la transition. Parce que si il s'attaque frontalement
avec tout ce qui vient de se passer.
Pour comprendre un peu, le meeting qui s'est passé, la démission, pour moi, ne sont pas des facteurs pour dire que Choguel pourrait être le chef de file de l'opposition. Être à l'opposition veut dire quoi? Être contre les actions gouvernementales en cours. Il a dit qu'il est là toujours pour conseiller, apporter son plus par rapport à la réussite de la transition. Bon, pour finir sur ce point, la réussite de la transition est devenue un impératif pour tout le monde. Que tout le monde travaille pour la réussite de la transition et qu'on aille directement vers les élections en renforçant l'aige surtout pour que nous puissions quitter la transition le plus tôt possible.
Merci beaucoup. Et ce sont sous vos mots que prend fin cette émission de débat dont le thème était Choguel Limoji Abdoulaye Maïga, confirmé chef du gouvernement. Grand merci à nos invités, tous des universitaires, Dr Ngolo Diarra, Dr Suleiman Keïta, Dr Ahmadou Touré, à la régie son et vidéo avec Ibrahim Sanogo et Adjaratou Traoré. Cette émission a été présentée par Mariam Maïga. Grand merci à vous et à la prochaine.